le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ce nouveau numéro de notre magazine citoyen qui est consacré aujourd'hui à la situation au sud de la commune du Mont d'Or. Le Mont d'Or Sud qui est enclavé depuis maintenant 3 mois. Avec le début de l'insurrection, les quelques 12 000 habitants ont dû réorganiser toute leur vie quotidienne autour du transport maritime, notamment entre les navettes et les barges. Mais quelle est aujourd'hui la situation? Comment la vivent-ils? Quelles sont les perspectives? Comment faire face aux problèmes récurrents du blocage de la RP1 à la hauteur de Saint-Louis? Nous allons en parler dans ce magazine en compagnie notamment du secrétaire général adjoint de la mairie du Mont d'Or, Jean-Charles Carteghini, de Florent Perrin, qui est le président de l'association des citoyens mondoriens, et de plusieurs habitants du Mont d'Or Sud qui vont témoigner de leur situation. Nous sommes avec Sylvie Fernandez, qui est habitante du Mont d'Or, gérante de la crèche garderie La Casa Môme, de Thierry Saint-Jean, qui est architecte, et de John Lefort, qui travaille à Païta, mais qui vit au Mont d'Or Sud. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Florent Perrin, ça fait 100 jours, un peu plus même maintenant. Quelle est la situation?
Oui, bah, au bout de 104 jours, je pense que ça suffit en fait. Il y a un moment, il faut que les choses évoluent positivement, il faut que Saint-Louis soit réglé, et définitivement même, nous on le souhaite maintenant, parce que la vie devient impossible. Et surtout, moi ce qui me choque aujourd'hui, c'est l'éclatement des familles au Mont d'Or, puisque les uns vont travailler à Païta, les autres vont au lycée de Blaise Pascal. Le troisième est obligé de rester à la maison parce qu'il faut aussi que quelqu'un reste à la maison ou revienne le soir pour nourrir les animaux. Donc c'est une situation qui est infernale et qui est plus vivable. Et puis au niveau économique, on a beaucoup de problèmes, notamment nos patentés, enfin, etc., où il n'y a plus de vie économique sur le Mont d'Or Sud pour tous ces gens-là. Donc à un moment, il faut que la route soit libérée et on demande à ce qu'elle soit libérée maintenant. Il ne faut plus attendre.
Alors vous avez fait, vous avez attiré l'attention des pouvoirs publics à plusieurs reprises hein, depuis le début de l'insurrection. On va en parler également avec la mairie du Mont d'Or qui est représentée ici. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, d'être compris?
C'est un sentiment mitigé parce que oui, on est écouté, on est reçu régulièrement, etc. Sauf que en fait, ça fait déjà 40 ans que ça dure. Et si on avait été entendu déjà depuis 15 ans en nous faisant notre route de désenclavement, bah, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc oui, on est écouté, mais on aimerait maintenant que l'action se mette en œuvre pour que les Mondoriens soient enfin tranquilles dans cette partie du territoire. Et puis on a une impression quand même que Saint-Louis, ça sert vraiment à certains pour pouvoir revendiquer. D'ailleurs, ils le disent régulièrement, que ça leur sert de revendication. Donc, à un moment, il faut que ce sujet soit vraiment traité au plus haut niveau et réglé pour que les Calédoniens et les Mondoriens puissent vivre tranquillement, enfin, dans ce petit paradis. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mont d'Or, c'est un paradis. On y vit très bien, on a la nature, c'est miraculeux comme endroit. Et malheureusement, on est pourri par ce qui se passe dans cette traversée de route.
Jean-Charles Carteghini, vous êtes le secrétaire général adjoint de la mairie du Mont d'Or. Comment vous vivez cette situation depuis le début? On imagine que la mairie est évidemment sollicitée de manière quotidienne, que vous avez vous-même entrepris des démarches au plus haut niveau de l'État pour tenter d'obtenir des interventions.
Alors déjà, le constat, il est évident. Hein. On a une partie de la population qui est isolée de manière critique, qui se trouve dans une précarité qui est insoutenable. On a évoqué quelques exemples, mais les exemples sont innombrables de situations totalement insoutenables. Ça, c'est la première chose. Mais dès les premiers jours qui ont suivi les exactions, la ville du Mont d'Or et la province sud ont mis en place des moyens pour essayer, on va dire, ce caractère insoutenable soit le moins possible pour la population. Donc on a mis en place des navettes maritimes. On est intervenu immédiatement auprès de la population des plus démunis, notamment les maisons de retraite, en leur apportant de la nourriture. On a beaucoup travaillé avec la banque alimentaire. Et puis, très rapidement, on a mis en place un système d'approvisionnement d'urgence en aliments, en combustible, en gaz. Et on est intervenu également pour reprendre un peu la main sur la scolarité de nos mandoriens, en particulier dans le primaire. Voilà les opérations qu'on a menées dans les premiers temps, qui ont suivi les exactions.
Alors, on imagine qu'en même temps se pose le problème récurrent en Calédonie de la répartition des compétences, parce qu'il y a à la fois la province, il y a à la fois l'État, il y a à la fois la commune. Tout ça, ça se chevauche, comment ça se passe ?
Alors effectivement, oui, dans la mise en place de ces différents dispositifs, on s'est plutôt bien entendu avec en particulier la province et puis avec le gouvernement pour ce qui concerne l'éducation. Après, je voulais répondre, je n'ai pas fini de répondre sur la première question, sur, vous me demandiez si on était intervenu au niveau... Des institutions, particulièrement, je pense, vous pensez à l'État. Effectivement, oui, on a forcément des liens avec le haut-commissaire, bien entendu. On a, dès les premiers instants, fait un point quotidien sur ce qui se passait sur le terrain, en détail. Et puis... je voulais dire également que dans les projets dont faisait état Florent, la route qui est demandée aujourd'hui, ça fait déjà un moment que la commune du Mont-d'Or la demande. Aujourd'hui, c'est une instance auprès du président de la République que le maire demande. Il a envoyé un courrier pour faire... à nouveau état de ce qui se passe sur le Mont-d'Or Sud et pour appuyer le projet qui est cette route de contournement qui permettrait de désenclaver et qui est certainement la seule solution pour désenclaver le Mont-d'Or Sud. J'ajoute, si vous me le permettez, que dans les projets de la commune, mais dans l'actuelle municipalité, on continue à porter le projet du transport maritime, qui était un sujet du SMTU, qui maintenant est repris par la commune du Mont-d'Or, c'est-à-dire avec un premier projet qui consiste à mettre un endiguement, endigué pour protéger et créer une marina au Vallon d'Or.
Florent Perrin, le système de navette qui a été mis en place assez rapidement, hein, on a bien compris, est-ce qu'aujourd'hui il a été renforcé grâce à des bateaux de plus grande capacité qui sont en partie financés par l'État, etc. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est amélioré, ce système, depuis le début ?
Oui, alors c'est très difficile parce qu'en fait, on ne sait pas quand la situation va s'arrêter. Donc du coup, c'était un système d'urgence qu'il faut maintenant professionnaliser. Toujours sans savoir quand est-ce qu'on va arrêter le système ou que la route va reprendre. Donc oui, aujourd'hui, il y a une volonté depuis que l'État a annoncé effectivement qu'ils allaient financer, il y a une volonté de professionnaliser le service, d'améliorer les choses pour que le quotidien des Mandoriens soit le mieux possible avec ces navettes. Alors, les navettes maritimes, on dépend de la mer, on dépend du temps, on dépend de la houle. Et parfois, c'est vraiment pas facile donc, de s'organiser pour les habitants par rapport à des navettes. On a une vie d'Ilien, une nouvelle vie d'Ilien qu'on nous impose. Et c'est des changements qu'il faut prendre en compte dans les familles. On parlait tout à l'heure des scolaires, c'est un vrai problème. Hein. On ne sait toujours pas comment ça va se passer parce qu'on leur demande quand même d'aller, par exemple, au lycée du Mont-d'Or. Mais pour l'instant, on l'a vu encore ce matin, c'est impossible avec les navettes. Donc... Donc oui, un grand merci, effectivement, notamment à la province sud, qui, avec la ville, qui ont mis ça en place, parce que on ne pouvait pas rester sans rien, c'était pas possible. Ces navettes, c'est une bonne chose aujourd'hui, effectivement, ça se développe. On l'a vu ce matin avec le nouveau Maridé qui était là. Il y en a un à 5h45 maintenant le matin. Ça fait du bien. Il y a un système de réservation qui va se mettre en place rapidement pour éviter aux gens de venir à 3h30. Comme ça, quand ils savent qu'ils ont le bateau à 7h, ben, ils viendront à moins 10 ou moins le quart et puis ils pourront dormir un peu plus. Donc oui, le système va s'améliorer largement pour qu'on puisse vivre le mieux possible.
Un témoignage à présent dans cette émission. John Lefort, je voudrais que vous nous disiez, vous nous racontiez un peu votre situation, comment vous vivez ça depuis le début du blocage. Vous travaillez à Païta. Hein.
Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille à Païta. Mon fils, il est au lycée Blaise Pascal. Et ma femme, elle est infirmière au Medipol. Donc, ce qui se passe, c'est que ben, moi, maintenant, j'habite à Païta. Je ne me considère plus comme au Mont d'Or, puisque... Ben, c'est pas possible de prendre les navettes à 3h du matin et revenir le soir. C'est pour nous qui sommes patentés, on a besoin de bouger. Et encore, il faut trouver une logistique pour les personnes qui viennent nous chercher. Venir nous chercher, repartir. Alors, on le fait une ou deux fois, ça va, mais tous les jours, ça dérange les gens. Et voilà, donc moi, le matin, j'emmène mon fils et le soir, je le récupère. Et ben là, ma femme, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vus. Parce que ben, le week-end, si je décide de monter le week-end, je prends la navette le matin, le samedi. Donc le samedi, j'arrive à Boulari. Il est environ 7h30 du matin. J'arrive à la maison au Mont d'Or à 11h. Et le dimanche, il faut s'organiser déjà pour redescendre. Donc je considère que c'est très peu de temps passé à la maison, autant que je reste sur Païta que je travaille. Donc quand on arrive le dimanche, les navettes le dimanche... Ça reste un souci, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je suis arrivé un dimanche et j'ai bien cru que j'allais retourner à la maison parce qu'il n'y avait pas assez de navettes pour le nombre de personnes. Et là, je vais parler aussi de ma femme, de son travail. Donc, elle travaille au Medipol pour prendre le service le vendredi. Elle descend le jeudi. Le jeudi, elle dort au Medipol pour prendre le service le vendredi matin. Elle fait ses 3 jours. Le 3 jours, elle finit le dimanche. Elle redort au Medipol pour reprendre la navette du lundi pour remonter au Mont d'Or. Alors là, c'est dans l'optique qu'on a trouvé une personne pour s'occuper de nos animaux. Et voilà, je parle aussi de mes voisins. J'ai une voisine, elle a carrément perdu son travail et son fils s'est déscolarisé. C'est-à-dire que lui, il est au collège de Cluny, à Lanzvata, et il n'y va plus depuis les émeutes. Donc là, pour lui, c'est une année de perdu. Il ne faut pas oublier ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il va faire, cet enfant-là? Il a perdu un an, là. Voilà.
Florent Perrin, on voit qu'on a affaire à des situations humainement particulièrement compliquées, quand même.
Oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire remonter. Alors nous, on n'est qu'une association. Donc nous, on est des porte-voix un petit peu de tous ces problèmes. Et on les reçoit à longueur de journée, hein, comme disait... le secrétaire général adjoint aussi. Donc, on reçoit toutes ces détresses en permanence. Et nous, notre rôle, c'est de faire remonter, de montrer aussi au reste de la population qui vit bien, parce que on est content pour tous les autres, hein, de bien vivre dans certains endroits. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'en Calédonie, il y a des gens que ça se passe pas bien et que, en fait, tout n'est pas normal. Nous, on n'a pas trop apprécié quand le haut-commissaire nous dit que ben, la situation reprend sa normalité, tout va bien.
Partout, ouais.
Donc ça, ce n'est pas vrai du tout. Il y a des endroits que ça ne va pas. Alors sur les histoires de lycéens, nous, on a fait une démarche auprès des vice-recteurs. On avait cru qu'on avait été compris. Et en fait, on n'a pas été compris du tout. On leur a dit que les navettes, ce n'était pas possible. Et pourtant, on nous dit, ben, lundi prochain, on rajoute des navettes. Mais ça ne suffira pas de toute façon. Et dans le communiqué qu'on a eu du gouvernement la semaine dernière, on ne prend pas en compte tous ces élèves dont parle John, c'est-à-dire quid de ceux qui vont au lycée de la Conception, au collège de la Conception, on n'en parle pas, ou les profs qui vont à Caméré, qu'est-ce qu'on fait d'eux en fait et ça concerne 200-300 personnes de plus. Eux, pour l'instant, ils essayent de prendre les navettes, ou alors ils vont s'installer à Nouméa, c'est ce que font la plupart des gens, ou vont s'inscrire justement à Blaise Pascal, mais voilà, ça finit par être saturé. Voilà, il y a une prise en compte, mais quand même, qui est quand même partielle. Je pense qu'il y a un travail qui doit être plus poussé, plus approfondi, pour pouvoir aider toutes ces personnes et éviter qu'on perde des années scolaires comme nous dit John, quoi.
Mmh. Non, mais Florent, de toute façon, il ne faut pas se mentir. Le système de navette, il ne peut pas convenir au nombre d'habitants du Mont d'Or. Mmh. Ça ne suffit pas. C'est impossible de charger tout le monde sur ces navettes-là. Et tous les patentés, ils font quoi le matin? Ils viennent avec leur voiture, ils laissent au Mont d'Or et à Nouméa, ils font quoi? Rien.
Le problème, c'est que tout ce qui a été mis en place, c'est parfait, mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de nous installer dans le temps, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'issue. C'est ça, la problématique. Maintenant, ce que Florent, l'énergie qu'il y a mis, tout ce qu'il a mis en place pour nous, les marchés, tout ça, etc., les navettes, voilà, mais c'est transitoire. Maintenant, il faut trouver une solution finale, quoi. Parce que là, on ne va pas aller parler de tout ce qui est les conséquences de notre vie au quotidien, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. La santé, les femmes qui accouchent sur le Loir, mais c'est une aberration, quoi. C'est une aberration, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même... parce que là, on est installé dans le temps. Et là, quand on rencontre des politiques, aux différents échanges qu'on a pu faire avec eux sur place, c'est ça. Ils nous installent dans le temps, quoi. C'est dramatique, quoi. On est en train de vivre, c'est l'enfer, quoi. Économiquement, socialement, psychologiquement. Moi, ma femme, elle s'est fait opérer la semaine dernière. On était obligé de louer un appartement. Après cette location, il a fallu que je la transporter par bateau. C'était un sketch, quoi. Un sketch. Mais c'est une aberration, quoi. C'est l'installation dans le temps. Nous, on aimerait bien avoir des réponses. C'est tout ce qu'on demande. Et puis, le problème de Saint-Louis, c'est pas qu'un problème que des Mondoriens, quoi. C'est le problème de la Nouvelle-Calédonie. Une fois qu'on aura fait sauter ce verrou-là, je pense que déjà, ça ira beaucoup mieux. Et en plus, c'est une route d'accès qui est primordiale pour nous, mais on a une usine Seveso qui est à l'autre bout, d'accord, qui est donc quand même... on connaît les conséquences de ce type de technologie et d'usine. Donc comment l'État peut autoriser ça, quoi? Comment l'État peut autoriser ça? À un moment donné...
On a les gens yatés aussi, hein.
Oui, de Yaté, parce que là, quand on parle de 12 personnes, on parle que des Mondoriens, en fait. Mais il y a Yaté, il y a Goro, c'est juste une aberration. C'est-à-dire qu'on a une usine dans le sud où on ne peut pas accéder que par voie maritime, et c'est... Voilà, mais bon, là, maintenant, il faut qu'on sorte de ça et puis qu'on nous donne des réponses, quoi. J'en sais rien, quoi. Mais ou faire un appel à la population pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Je ne sais pas.
Sylvie Fernandez, vous êtes donc gérante d'une crèche-garderie. Qu'est-ce que vous vivez depuis 3 mois?
Alors, merci de me donner la parole. Moi, j'aimerais juste revenir sur le fait qu'on est en France, qu'on est en République, et que de l'histoire de la République, je ne pense pas qu'il soit déjà arrivé que 12 000 personnes soient prises en otage. On fait partie de la France, on fait partie de la République. Il est bien inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la libre circulation de la population. Donc rien que ça, quand on a dit ça, on a tout dit. Comment on peut expliquer en 2024 que toute une partie d'une population soit privée de ses droits fondamentaux? Comment on l'explique? Moi, ça me paraît effarant qu'on nous laisse comme ça. Je pense que si le problème était rapporté à la métropole, j'ai quelques doutes sur le fait qu'en métropole, on laisse tout un département coupé du monde. Je ne pense pas que ça se passerait comme ça. Et c'est là où je ne comprends pas qu'on se pose encore ces questions-là. Alors oui, je remercie la mairie du Mont-d'Or. Oui, je remercie la province sud. Oui, on a des navettes. Moi, ce matin, mon conjoint avait un problème de santé. Je ne vous explique pas combien j'ai dû galérer pour l'emmener chez le médecin, puis ensuite retourner dans la structure, voir si Vega m'avait bien livré, parce que ça fait quand même qu'une semaine que j'attends une livraison, puis ensuite me dire, bon, il faut que je sois à midi chez RRB, vite, je cours, je prends une navette, sans être garantie de pouvoir rentrer chez moi ce soir, parce qu'entre-temps, la houle, le vent s'est levé. Et c'est notre quotidien. Alors moi, j'ai la chance de vivre et d'habiter sur le Mont d'Or. J'ai choisi de vivre au Mont d'Or. Par contre, je n'ai pas choisi de vivre coupé du monde. J'adore la ville du Mont d'Or, j'adore le cadre dans lequel... J'adorais le cadre dans lequel je vivais, mais ça devient une prison dorée. Et ça, moi, je pense qu'on oublie les troubles psychologiques que vivent les gens. Psychologiquement parlant, de ne pas pouvoir se dire le samedi matin, bah tiens, je vais aller au marché de Nouméa faire quelques emplettes, je vais aller voir quelques amis. Nous, on est coupés du monde. Il faut pouvoir... Je l'ai vécu, hein. Je me suis dit, au bout de 3 mois, j'ai dit à mon conjoint, viens, on va à Nouméa. J'ai halluciné quand je suis arrivée à Baie de la Moselle de voir le monde installé en terrasse, vivre comme si la vie continuait. Et tant mieux pour eux, c'est pas ce que je leur reproche. Mais c'est ce décalage, c'est le décalage entre ce que vivent les gens de Nouméa, avec des commerces qui sont alimentés correctement, avec une vie qui semble normale. Et puis nous qui sommes coupés du monde, nos week-ends sont les mêmes. Nous, on prend les semaines, on ne sait même plus quel jour on est. Parce qu'en fait, notre vie, elle est rythmée par les mêmes choses. Ah, tiens, je vais aller chercher des pâtes. Mais dans quel magasin vais-je pouvoir en trouver ? Alors, je fais 3 fois le tour du monde or. Parce qu'il faut quand même être réaliste, pendant un certain temps, les rayons étaient vides. Moi, j'ai réouvert la crèche avec 5 enfants sur 40. Je demandais aux gens, aux familles, et je les remercie, parce que s'ils n'existaient pas, je ne serais pas là, d'amener les goûters, parce que je n'avais pas de laitage à fournir aux enfants. Parce que dans les commerces, il n'y avait pas. Donc, pas de miracle. Hein. Donc, c'est les parents qui m'amenaient le goûter des enfants pour les faire goûter à 15 heures. Je trouve ça hallucinant en 2024.
Jean-Charles Cartegini, c'est des choses que vous entendez tous les jours. On en parlait un petit peu avant cette émission. Des témoignages comme cela, vous les connaissez. Qu'est-ce que vous craignez, vous, du côté de la mairie du Mont-d'Or ? Vous craignez quoi ? Vous craignez un exode ? Vous craignez une crise sociale, une crise économique, j'allais dire presque une crise humanitaire, mais on n'est pas loin.
Alors. Déjà, je trouve que les témoignages autour de la table sont effectivement bouleversants, et particulièrement celui de John. Ce sont malheureusement des témoignages qu'on entend tous les jours. On a déjà des personnes qui sont présentées chez nous, mais ça c'est tout le monde d'or, hein, toute la commune, des gens qui sont présentés parce qu'ils ont tout perdu. La misère, on la voit, on la touche du doigt, ça c'est sûr. Ça c'est plutôt le contexte général. Et après, sur la partie spécifiquement Mont d'Or Sud, oui, il y a un problème humanitaire. Sinon, on ne serait pas en train d'envoyer des barges, on serait avec des aliments d'abord de première nécessité. Les premières qu'on envoyait, c'était de la farine, des œufs. Il n'y avait rien dans les magasins. Aujourd'hui, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie. Il faut savoir qu'il y a une influence qui est incroyable, hein, sur le wharf du Vallon d'Or, qui en fait, si on se souvient de sa fonction numéro 1, c'est quand même une mise à l'eau pour plaisanciers. Mmh. Aujourd'hui, c'est quasiment un port.
C'est une guerre maritime, ouais.
Voilà.
Mmh.
Mais oui, bien sûr que... Et tout tient à un peu de béton. Parce que la rampe, si vous êtes allé... je sais que vous y êtes allé, vous, mais c'est extrêmement précaire. Quand je parlais de précarité tout à l'heure, c'est aussi cette précarité. On dépend de structures qui ne sont pas prévues pour ça. Comme, du reste, les navettes maritimes. Le ponton, il n'est pas prévu pour ça. En tout cas, il n'est pas prévu pour accueillir de plus gros bateaux. Donc, on parle de durée dans le temps, mais durée dans le temps, nos structures, à un moment, elles vont s'essouffler. Hein. Elles ne vont pas pouvoir durer. Alors, tout ça, ça doit être pris en compte.
Thierry Saint-Jean, vous êtes architecte. Alors, est-ce qu'il y a un problème économique qui va avec ? Est-ce qu'il y a des gens qui perdent leur...
Moi, mon activité, elle est sur Nouméa. Mon activité est sur Nouméa. Donc, déjà, pour moi, c'est compliqué d'y aller tous les jours. Quand on évoquait tout à l'heure la problématique de la sécurité, on ne peut pas laisser son habitation. Et puis, les animaux, tout ça, on ne va pas y revenir. C'est très compliqué. Maintenant, après, si on revient sur l'aspect économique, c'est une catastrophe. Parce que, de toute façon... Il n'y a plus de perspective, donc il n'y a plus de projet d'investissement de qui que ce soit. Donc c'est très compliqué. Et l'autre problématique qu'on rencontre de notre métier, c'est le rôle des assureurs, quoi, actuellement. C'est très compliqué de... les indemnisations pour la mise en place, c'est très 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 long, ou même... ça n'avance pas forcément, ça n'avance pas, on va dire, carrément. Et l'autre problématique, c'est
pour ceux qui ont déjà qui ont été impactés et qui veulent relancer, comment dire, ou se réimplanter pour exercer leur activité, bah, ne trouvent pas à s'assurer que ce soit le stock ou leurs locaux. Donc, ce qui fait que bah, ils y vont pas, quoi. Donc nous, on a en fait en visibilité, bah, on a des perspectives de chiffre d'affaires équivalent à zéro, quoi. C'est, il n'y a pas de. Bon, après, il va certainement effectivement avoir une relance économique, mais sur du moyen terme, quoi, pas dans l'immédiat. Ce dont nous, on a besoin au jour d'aujourd'hui. Mon chiffre d'affaires est descendu de 70%, dans deux mois, il va descendre à 90%. Donc c'est évident, puisque là, quoi, j'avais des marchés en cours qui étaient programmés pour la fin d'année, mais qui sont mis soit en sommeil, ou soit carrément annulés, quoi. Les particuliers, ils n'y vont plus, d'accord, parce que bon, ils gardent les, on va dire, les pièces qui leur restent dans leur poche pour pouvoir vivre au quotidien, et non plus changer, faire les travaux d'aménagement, d'agencement tels qu'ils avaient prévu. Et donc, chez les professionnels, bah, je ne sais pas qui peut croire encore en état, tant qu'il n'y a pas de décision ou de perspective sur du long terme, à investir en Calédonie, quoi. Donc, voilà. Et le seul marché potentiel que nous, on peut prétendre aujourd'hui, bah, c'est la reconstruction. Mais là, ça n'avance pas du tout, quoi. Au niveau des assurances, je ne sais pas. Autour de moi, c'est une catastrophe, quoi.
Alors, je voudrais qu'on entame une sorte de deuxième partie dans cette émission. C'est quoi la solution, finalement? On connaît le problème auquel sont confrontées les forces de l'ordre. On l'a évoqué à plusieurs reprises pour faire, entre guillemets, sauter ce verrou de Saint-Louis, hein, qui existe, on l'a rappelé en début d'émission, depuis bien plus longtemps que le 13 mai, qui est l'œuvre de quoi? Quelques dizaines d'individus radicalisés qui, effectivement, vont jusqu'au bout d'une forme de folie, comme ça, destructrice. On l'a vu avec l'incendie de la mission, on l'a vu avec beaucoup de choses, des carjackings qui ont été d'une violence absolument inouïe, avec des gens déshabillés sur la route pour qu'on leur vole leur voiture. Donc, au-delà de cette solution-là, je sais bien qu'on ne peut pas répondre à la place des forces de l'ordre, hein, puisque c'est compliqué. La situation sécuritaire, vous me le disiez, Florent Perrin, s'est quand même un petit peu améliorée. Sur l'ensemble de la commune. C'est quoi la solution? Question ouverte. Et silence, du coup.
Je pense qu'on avait... ça fait quelques années, moi, que je suis aux côtés de Florent Perrin et de l'association. Je pense qu'on avait alerté. Ça fait des semaines, des mois, des années, je ne saurais même pas dire depuis combien d'années, qu'on alerte sur la situation qu'est cette ERP1 dangereuse ou dans laquelle il y a des exactions de façon continue qui sont tues, hein, les trois quarts du temps. Hein. Oh, on se prend une pierre, c'est presque banalisé. C'est presque normal de se faire caillasser. Et ça fait des années qu'on alerte et qu'on dit à un moment donné, on a déjà vécu des blocages, il va y avoir à un moment donné soit un mandorien qui va se rebeller et qui va tirer dans le tas, soit on sera complètement bloqué et ce sera catastrophique. J'en parlais tout à l'heure et je disais, si on mettait bout à bout la somme qu'ont coûté ces exactions, qu'ont coûté les feux qui ont été mis sur cette route depuis moultes années, la somme des navettes journalières qu'on a là depuis trois mois, je pense que la voie de désenclavement, on l'aurait quasi payée. Donc je trouve dommage, quand on alerte, on n'a pas monté l'association histoire de, parce qu'on ne savait pas quoi faire le matin. Hein. On a monté cette association parce qu'on avait des problématiques, parce qu'il y avait un réel problème par rapport à Saint-Louis. On ne l'a pas inventé, ça fait 40 ans que ça dure. Pourquoi faut-il en arriver toujours au bout du bout pour se dire on aurait dû 12 000 personnes bloquées, 12 000 Mondoriens qui vivent l'imaginable. Donc je trouve dommage quand on alerte, quand on crée comme ça des associations qui... Il y a tout un travail qui a été fait. Moi, j'ai été une pièce rajoutée, mais que ce soit Florent Perrin, Jean-Noël Pesant, ils ont fait un travail formidable pour alerter, pour donner pour proposer des solutions et pour développer ce monde d'or. Mais on est reçus. Écouté certainement, entendu, j'ai quelques doutes, hein, puisqu'on en est là.
Alors, il y a évidemment cette route de contournement, on en parle depuis très longtemps. la chose qui est certaine, c'est que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On est bien d'accord, parce que d'une part, il faut la financer, et puis deuxièmement, il faut la construire, en admettant même que la décision politique soit prise. Donc la solution, là, maintenant, tout de suite, c'est quoi, Florent Perrin?
Déjà, c'est de coûte que coûte de nous libérer la route le plus vite possible, là, maintenant. Ça, et maintenant, on ne peut plus tenir, là. Donc on voit le haut-commissaire tout à l'heure à 14h30, donc ça va être le sujet, c'est qu'il faut nous libérer immédiatement. Je ne sais pas quelles actions, nous, on va mener derrière. Mais si elle n'est pas ouverte très prochainement, il va falloir que la population s'y mette. Il va falloir que nous, on se bouge, qu'on se réunisse encore plus nombreux, parce que ce week-end, on était 300, mais en fait, il faut être 2000, quoi. Il faut que tout le monde s'y mette, et les Nouméens viennent nous aider, et puis qu'on aille mettre une pression incroyable sur l'État. Il faut qu'on nous libère la route immédiatement. Et puis, nous, on attend une perspective.
Libérer la route, ça veut dire, pardon, la sécuriser.
La sécuriser.
En permanence, parce que c'est une chose, mais...
Mais en fait, si on demande cette voie de désenclavement, c'est parce qu'on a compris qu'on n'arriverait pas à la sécuriser. Les gars, ils vont en tôle, ils ressortent, ils recaillassent. Et puis, ils passent ça à leurs petits frères, leurs petits cousins. Enfin, ça dure depuis 40 ans, donc on n'arrivera jamais à la sécuriser. Cette route passe au milieu de terres coutumières. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. De la mer jusqu'en haut de la montagne, c'est de la terre coutumière. Donc, si on veut une route sécurisée, il ne peut n'y avoir qu'un pont, qu'un viaduc, qui passe loin de Saint-Louis. Et aujourd'hui, ce qu'on demande à Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui doit le décider, et de nous dire rapidement là, s'il veut la faire ou pas, la route. Ça fait 3 ans qu'on est reçu par les conseillers du président de la République, par les conseillers du ministre Darmanin, par les conseillers de Guévenoux. La seule question qu'on leur pose à chaque fois, est-ce que vous décidez le pont? On nous répond toujours pas. Donc cet après-midi, pareil, la question sera posée au commissaire. Donnez-nous la réponse, qu'on ait une perspective sur ce pont. Voilà, il faut que politiquement, maintenant, la décision soit prise. Effectivement, il va être long à construire. Donc là, on en revient à la proposition de la présidente de la province Sud, qui, elle, maintenant, depuis 2-3 ans, est à nos côtés pour le pont aussi, de faire un ferry en attendant le pont. Ce qui va nous permettre d'avoir le choix entre passer sur la route ou ou passer autrement, c'est-à-dire par la voie maritime. Un ferry peut être intéressant. Moi, aujourd'hui, on est plusieurs à le dire, on n'a plus du tout envie de traverser Saint-Louis. On n'a plus envie. Donc, avoir une solution alternative en attendant le pont, pourquoi pas. Et on remarque quand même qu'on est en train de créer une économie sur la mer et la Calédonie tout entière se réveille en se disant « Ah, oh, on peut passer par la mer !»
– Ah, au fait, on est une île.
– Voilà, et en fait, même pour aller à Bouloupari, Bouraille, lors des exactions, il y a eu des barges qui sont parties. On s'est rendu compte que c'était moins cher d'aller à Koumac par barge que par camion. Donc, en fait, il y a toute une économie maritime à mettre en œuvre qui est intéressante. Bon, là, je déborde un peu, mais oui, il faut absolument nous ouvrir la route rapidement pour que toutes les familles revivent normalement, se retrouvent, parce que là, on est en train psychologiquement de péter un câble. On pète un câble. Moi, j'ai des coups de fil, c'est hors norme, quoi. Alors oui, on est aussi un peu le respectacle, l'association 1, comme la mairie, d'ailleurs. Mais bon, voilà, on le prend sur nous. Moi, je suis pas loin de péter un câble aussi, je vous le dis franchement. Mais c'est comme ça, on est là pour ça, on a créé cette association. Mais aujourd'hui, on veut être entendu. On veut que ça avance, quoi. Voilà.
Je voudrais que, pour terminer cette émission, qu'on pose la question aux 3 habitants qui sont là, nos 3 amis du Mont d'Or. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui? C'est l'amour de votre commune? C'est cette vie que vous aimiez tant au Mont d'Or? Sylvie?
Alors, moi, je suis partie de rien. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur le Mont d'Or, je travaillais au départ, j'étais en néonat. J'étais au Médipôle. Enfin, j'étais plutôt... il n'existait pas encore, le Médipôle. Mais je suis partie de rien. J'ai acheté un terrain, j'ai construit ma maison, j'ai construit ma crèche. J'y avais un équilibre de vie par rapport à mes filles qui faisait que j'étais heureuse. La vie au Mont d'Or est superbe. À l'heure actuelle, si la crèche boit le bouillon, ce qui ne saurait tarder, hein, parce que si j'ai pas de perspective que la route réouvre, j'ai une convention IGESA, il n'y aura pas d'armée. L'armée a décidé de ne plus faire venir ses familles. Les parents perdent leur boulot à tour de bras. Donc, clairement, moi, dans 6 mois, je bois le bouillon. Y a pas de, je suis réaliste, hein, je ne suis pas dans le déni. Alors, pour l'instant, je tiens parce que j'ai ma maison et la crèche. Donc, je vais où ? Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Je pars avec mes valises et puis je dis, je m'installe où ? J'ai quelle perspective d'avenir ? Moi, j'ai mes 2 filles qui font leurs études en métropole, qui devaient rentrer, que je n'ai pas vu, que je ne reverrai pas de sitôt. Je veux dire, on a tous des histoires de vie, des situations qui sont catastrophiques psychologiquement. Mais est-ce qu'on a le choix ? Alors, vous me direz, on a toujours le choix. Parfois, le choix est difficile. Hein. Il faut financièrement avoir les moyens de dire, allez, je largue tout et je prends mes valises et je vais m'installer ailleurs. Et je laisse 13 ans d'une vie. Ça fait 13 ans que je paye une crèche et une maison et que je vais tout, là, à l'heure actuelle, je vais tout perdre. Alors oui, je tiens parce que je pense que j'ai vécu d'autres choses dans ma vie qui font que je fais preuve de résilience, parce que je suis dans une association où on a cette possibilité certainement d'évacuer, de verbaliser, de dire notre mal-être, de piquer des crises, voilà. Donc on a cette soupape. Mmh. Mais clairement, je ne sais pas ce qui me fait tenir. Je ne sais pas.
John, comment vous tenez-vous ?
On tient parce qu'on aime le Mont d'Or. Moi, je rappelle que mon grand-père a acheté en 1972 au Mont d'Or. Mmh. Donc, j'y suis depuis toujours. Et, par contre, quand j'ai acheté sur Païta, j'ai demandé à ma famille pour déménager. Et mon fils et ma femme, ils ont dit non, on reste ici parce que c'est sur le terrain du grand-père. Je ne sais pas si aujourd'hui, ils ne regrettent pas un petit peu. Mais en tout cas, on y est encore et on va y rester au Mont d'Or. On ne partira pas du Mont d'Or. Moi, je dis que c'est à l'État à trouver une solution et arrêter de mettre les populations en opposition. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les populations en opposition parce qu'eux, ils ne jouent pas leur rôle. Mmh. Voilà. Mais oui, on aime le Mont d'Or, on restera au Mont d'Or.
Thierry Saint-Jalme.
Pareil, hein, c'est un choix de vie au départ. Ça fait 20 ans que je suis sur la commune du Mont d'Or. Effectivement, hein, un cadre de vie qui est quand même vachement agréable. Quoi. Bon, maintenant, après, maintenant... On y tient, on y est attaché, on a des amis, on a pas mal de choses, on a une partie de notre tissu social en plus de celui de Nouméa qui existe là-bas. Bon après, effectivement, de toute façon, il faut quand même aussi voir la réalité en face. La dévalorisation de nos biens par ces exactions et puis, par cette prise d'otage que nous subissons, nos biens, ils ne valent plus rien. Donc, tant qu'on ne les a pas vendus, on n'a pas perdu d'argent. Hein. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est comme... c'est tout. En fait, globalement, là, au jour d'aujourd'hui, par rapport aux investissements qu'on a faits, on ne peut que garder nos biens, quoi, parce qu'autrement, on perd de l'argent. Quoi. Ça va être catastrophique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est malheureusement ça. Quoi.
Voilà. Dernier mot avec vous, Florent Perrin.
Il y a une chose qui fait tenir les gens aussi, il faut en parler, parce que c'est important, c'est la solidarité entre les Mondoriens. C'est énorme. Le travail qui est fait par tout le monde, chacun dans son petit coin pour aider l'autre, aller voir les petits vieux, etc. Nous, on essaie d'organiser. Alors, on a une grande collecte là, que la province a fait. On va la voir jeudi matin. Donc, on va préparer les cartons, tout. On a des listes de gens. On va essayer d'aller aider les plus démunis. On va donc aider la mairie, puisqu'elle le fait très bien. Hein, mais nous, on va participer aussi de notre côté. Je crois que c'est ça qui fait tenir les gens. C'est cette solidarité. Et malgré tout, on parlait des navettes, mais il y a un point positif, parce que moi, j'essaie de rester positif, parce que sinon c'est pas la peine. C'est qu'en fait, on se rencontre dans ces navettes, parce que d'habitude, tous les matins, on est dans nos voitures, on met 1h30 hein, quand même pour aller à Nouméa, hein, le matin, je le rappelle à tout le monde. Et donc, on est tout seul à nos volants, ou à deux. Ce matin, on était dans le Maridé, il y avait 130 personnes. On discute, on se rencontre dans les files d'attente, on apprend à se connaître. Et donc, il y a quand même ce côté positif et surtout cette solidarité entre Mondoriens qui, je crois, il faut la souligner et l'entretenir parce que c'est important et c'est ce qui a permis cette résilience aujourd'hui. Tout le monde nous dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas déjà tous explosé ? Je crois que c'est ça. C'est le fait qu'on est tous ensemble, on vit tous la même galère et du coup, on se comprend et ça permet la solidarité.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous pour ce magazine citoyen.